Bernard Minier, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc Une putain d'histoire. Ben oui, c'est le titre, hein. On ne peut pas le dire autrement.
Oui.
Chez Ixo Éditions, donc votre quatrième.
C'est ça.
Polar. L'intrigue, on va y revenir, est d'une très grande complexité, très riche, très dense, en même temps d'une grande fluidité. Mais alors, je voulais savoir quel était justement le premier fil que vous aviez tiré. Quel a été le déclic? Quelle est la première idée qui a généré ce livre?
La première idée, c'est le personnage d'Henry, qui est un adolescent de 16 ans qui vit sur cette île boisée au large de Seattle et qui est un enfant adopté, élevé par deux mamans. La première idée, c'était le personnage central, en fait, qui est un narrateur. C'est mon premier roman à la première personne. J'avais depuis longtemps envie de parler de ça, de parler de l'adolescence, de cette période charnière avant le passage à l'âge adulte. Oui, c'est un âge qui m'intéresse. C'est quand même... on regarde tous quelque chose de l'enfance et de sa jeunesse. Il y a une très belle formule qui dit « on ne guérit jamais complètement de sa jeunesse ». Et c'est vrai. Moi, avant d'être auteur, j'ai été lecteur et j'ai connu, parmi mes premières lectures, tous ces auteurs alors délicieusement exotiques à mes yeux, qui étaient les auteurs, les écrivains d'Amérique du Nord, des gens comme Stephen King, comme Salinger, comme Mark Twain, etc., où le mythe de la jeunesse et de l'adolescence est très présent. C'est un mythe américain, même si en France, je me souviens de la lecture du Grand Molne, c'est une lecture aussi, une des grandes lectures de ma jeunesse. Donc j'avais envie de rendre hommage en même temps à ces lectures-là, et parler de cet âge très particulier, cette période où la personnalité finalement se forme, elle émerge un peu de la gangue de l'enfance, elle se précise. Il y a aussi cette peur de l'âge adulte, il y a aussi cette crise identitaire qu'on connaît à cet âge-là, qui dans le livre se double d'une autre crise identitaire, puisque Henry se pose des questions sur ses origines.
C'est un enfant adopté, et ça, on le découvre très, très vite.
Très vite, oui.
Et avec un gros point d'interrogation sur,
sur son passé.
Et l'identité des parents. Et alors, en faire le narrateur, mais ça, on le découvrira, et notamment dans le dénouement, bon, on ne peut pas trop en parler, mais le choix d'en faire le narrateur, évidemment, est essentiel. Sinon, le livre ne tient pas. Et ça, c'est déjà une de vos très belles idées dans la jeunesse. La construction de ce roman.
Il est très intéressant et puis il est en même temps très jubilatoire pour un écrivain. Parce qu'il faut trouver sa voix, il faut trouver VOX hein, pour le coup. Il faut vraiment trouver une voix qui soit en même temps celle d'un adolescent, donc avec ce langage-là, cette liberté de langage-là, qui, comme vous l'avez souligné, se traduit jusque dans le titre. Et puis en même temps, c'est un adolescent qui est quand même un grand lecteur, qui est quand même qui a une culture et qui a un vocabulaire assez étendu. C'était quand même très très jouissif de cette écriture-là, de se glisser dans cette peau et de parler à travers sa voix. Ça, c'est quand même un exercice très très agréable.
Alors donc, il va se retrouver le suspect principal dans un meurtre d'une jeune fille qui est son amie, Naomi. Et donc, en parallèle, pour tenter de s'innocenter, il va mener sa propre enquête avec sa bande de copains. Ils sont cinq, comme par hasard. Et moi, ça me rappelait d'autres lectures de jeunesse.
Bien entendu.
Je pensais au club des cinq. On
ne
peut pas s'empêcher de
bien sûr.
Penser. Est-ce que là, le clin d'œil aussi est,
oui,
est voulu, est volontaire?
Il est assumé, oui, bien entendu. Mais c'est quand même un petit peu plus noir que le club des cinq.
Certes.
C'est un peu plus anxiogène et oui. Et c'est,
oui, mais
et
dans les liens, dans les rapports
bien
entre
sûr.
Ces adolescents,
ben, c'est-à-dire
on retrouve un peu de ça.
On a tous connu ces petites bandes comme ça autour de nous, ces amitiés de jeunesse qui finalement, quand on regarde bien, sont des amitiés d'une pureté et d'une intensité qu'on est rarement plus tard même. Et ça aussi, ça m'intéressait d'en parler. C'est aussi un microcosme. Il y a un rapport très intéressant entre le fait qu'il appartient à cette petite bande et qu'en même temps, il est arrivé assez tard sur cette île qui est comme toutes les îles avec sa communauté. Et donc, il est à la fois un peu à l'écart et à l'intérieur. Et ça m'intéressait. C'est pas pour rien que le livre, d'ailleurs, s'ouvre sur cette image des orques. Qui sont nombreux dans ces eaux et qui nagent au large de l'île. Et il faut savoir que chez les orques, il y a deux types d'orques. Il y a les orques sédentaires qui vivent en bande, en clan, en famille, et les orques nomades qui sont beaucoup plus solitaires. Et donc cette image-là, c'est un peu aussi l'image de ce qui se passe dans le livre.
D'où donc ce prologue avec cette scène où il est sur son petit
kayak, oui.
Kayak et au milieu donc de ces orques, qui est une scène d'ouverture déjà très, très forte. Et puis en effet énigmatique, on se dit mais pourquoi cette ouverture,
oui.
Où est-ce que ça va nous mener? Qu'est-ce que ça signifie? Alors le lieu maintenant, qui est un personnage à part entière.
Exactement.
Alors nous sommes aux États-Unis, ce qui est une première pour vous, puisque les romans précédents se déroulaient ici en France. Pourquoi vous exportez aux États-Unis et surtout avoir choisi, parce qu'en général, quand on a des romans particuliers écrits par des auteurs français, aux États-Unis, on se retrouve dans les grandes métropoles, New York, ou d'autres. Là, pourquoi ces îles donc, qui sont proches de Seattle? Alors, on est bien sûr du côté Pacifique.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ces choix-là?
Alors, il y a deux questions en une. Il y a la question pourquoi déjà les États-Unis. Effectivement, parce que j'avais envie de rendre hommage à ces lectures-là, parce que moi aussi, je suis imprégné de ces lectures-là, et que ce mythe américain de la jeunesse est très présent dans mon imaginaire. Pourquoi Seattle plutôt que Los Angeles? Déjà, je me disais que si je situais mon intrigue à Los Angeles, ou des géants comme Conley, Elroy et bien d'autres, c'était un peu comme monter sur un ring et vouloir boxer face à Mohamed Ali. Donc, j'avais pas envie de me retrouver KO debout au premier round. Et j'avais envie de parler d'une région qu'on connaît un peu moins. C'est une région absolument fascinante. C'est effectivement le nord-ouest des États-Unis, presque la frontière canadienne, le Pacifique. Et du coup, c'est un climat très particulier, très humide. Seattle, tous les Américains le savent, c'est la ville de la pluie. Donc il pleut tout le temps. Tous les nuages sont arrêtés par la chaîne des Cascades, qui est une chaîne de montagnes qui court à l'est de Seattle. Et on a surtout sur ces îles et sur la péninsule olympique une forêt qu'on appelle la forêt ombrophile. Ce sont des arbres géants qui font 40 à 60 mètres de haut, qui sont extrêmement touffus, qui privent le royaume d'en bas de lumière. Et sous ce dé, on a des sous-bois qui sont aussi silencieux. Il y règne un silence de cathédrale ou de fond marin. D'ailleurs, c'est d'un vert océanique. Il y a de la mousse partout, il y a des fougères partout. C'est un lieu très, très oppressant, très envahissant. Et j'avais envie, je trouvais très intéressant de mélanger à la fois le biologique, le psychologique et puis aussi un peu le social avec ce microcosme que sont cette petite communauté ilienne.
Et oui, ce huis clos insulaire, évidemment.
Et le huis clos, mais j'ai toujours aimé les huis clos. J'ai toujours aimé les huis clos depuis Glacé, hein, puisque Glacé, j'ai enfermé un personnage dans une vallée des Pyrénées l'hiver. Donc voilà, on retrouvait un peu ce principe-là.
Je voudrais dire que la qualité de restitution, justement, de ces lieux, de cette atmosphère, de cette ambiance, en effet, d'humidité, tout est étouffant, où on est comme ça dans la noirceur, elle est telle qu'évidemment, on se dit, vous êtes allé sur place,
oui.
Vous avez dû vous imprégner de ces lieux. C'est le cas, racontez-nous un peu comment ça s'est passé.
Oui, complètement. Déjà, je vais toujours sur les lieux que je décris. J'avais depuis le départ l'idée de situer cette intrigue-là là-bas, et donc je me suis rendu il y a un an, quasiment très exactement il y a un an, c'était au mois d'avril 2014.
C'était là-bas. La première fois, vous
C'est pas la première fois que j'allais aux États-Unis. Ah, oui. En revanche, c'était la première fois que j'allais sur ces îles.
Oui, non, mais je parlais de
ces îles.
Oui, de
Seattle,
c'était
oui.
Première,
oui. Oui, c'était une première.
Vous les connaissiez de réputation ou pas?
Voilà, exactement.
La littérature.
Et donc, on s'est baladé, on a sauté d'une île à l'autre, on a pris des ferries, j'ai rencontré beaucoup de policiers de Seattle, de la criminelle de Seattle, mais aussi de ce qu'on appelle la police des comtés, puisque la police est très dispersée dans les différents contrées. J'ai rencontré le shérif du comté de ces îles qui a eu la gentillesse de m'ouvrir les portes de ses services, donc j'ai beaucoup de rencontres comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais peur d'être déçu en arrivant, parce qu'on se fait son film, on imagine des choses, on construit à l'avance toutes ces scènes. Et en fait, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le coup, la réalité était infiniment plus forte, plus dense, plus puissante que tout ce que j'avais imaginé. Et ça, c'était extraordinaire.
En fait, il y a trois enquêtes en compétition, je dirais. C'est plus qu'en parallèle. Il y a une espèce de course comme ça de vitesse. Il y a celle menée par le shérif, les autorités policières locales. Il y a celle menée par Henri et sa bande de potes, là, ce club des cinq. Et puis, celle menée par donc, un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui qui pense être le père biologique d'Henri. Donc, tout ça, ça donne évidemment une construction assez complexe, très, très dense, et pourtant, voilà, qui se lie avec beaucoup de facilité, qui est extrêmement fluide. Comment vous travaillez? Comment vous arrivez justement à trouver cet équilibre?
Bah, je crois que la réponse, vous l'avez donnée vous-même, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la construction. Ça prend du temps, c'est un vrai mécano qu'il faut monter comme ça à la main, agencer une espèce d'horlogerie très précise. Mais pour ce livre-là, davantage que pour les précédents, ça a été très facile, en fait. Ça a été très facile parce que j'avais deux pôles, comme vous l'avez souligné. D'un côté, il y a Henri, ce gamin de 16 ans, qui, on ne l'a peut-être pas dit, qui n'a pas le droit de mettre une photo sur Facebook, qui n'a pas le droit de mettre quelque information personnelle que ce soit sur Internet. Et à l'autre bout du pays, donc, on a Grant Augustine, qui, lui, dirige une société privée de renseignement.
WatchCorp.
Voilà, qui sous-traite pour la NSA, qui ressemble beaucoup à celle qui employait Edward Snowden. Pour ne pas la nommer, et qui a donc tout, qui recherche son fils qui lui a été enlevé à la naissance 16 ans plus tôt, comme par hasard, et qui a tous les moyens et tous les outils de surveillance à sa disposition pour le retrouver, mais qui néanmoins depuis 16 ans échoue dans sa quête, sauf que le meurtre de la petite amie de Henry va déclencher toute une série d'événements. Et ça a été assez simple de mettre en place ces deux intrigues en parallèle, parce que elles étaient concomitantes, elles étaient liées, et d'un côté il y avait ce fils qui cherche le secret de ses origines en même temps que le meurtrier de sa petite amie, et de l'autre côté il y a ce père putatif possible qui lui cherche son fils depuis 16 ans. Donc il était forcément, elles allaient se rejoindre à un moment donné, et c'était assez simple à mettre en place.
Mais comment vous procédez? Je ne sais pas, vous faites des schémas, vous avez une structure, un plan très détaillé dès le départ, ou alors comme c'est le cas parfois pour d'autres auteurs, vous vous laissez embarquer au fil de l'écriture et le scénario peut évoluer?
Pour celui-là, j'avais une construction assez précise, ce qui n'était pas le cas forcément pour les précédents, mais là j'avais une construction assez précise, oui, il y avait eu toute une architecture. Mais
qui donne en effet, je trouve, cette clarté oui, à l'intrigue qui, bon, c'est ce qu'on a vu personnel, n'était peut-être pas toujours aussi évidente dans certains de vos livres précédents.
Sans doute parce que je l'ai davantage construit. Mais en même temps, j'aime qu'il y ait du jeu dans les rouages. Voilà, pour parler toujours mécanique, hein, où j'aime qu'il y ait du jeu dans les rouages. J'aime me laisser une certaine liberté. Je pense toujours à la phrase de Didier Van Kovelaert qui dit « Un plan, c'est comme une route, c'est fait pour être quitté. » Et je suis entièrement d'accord avec ça. De temps en temps, il faut se laisser une part de spontanéité, d'improvisation. Et finalement, c'est quand même le plus important dans un roman tel que celui-ci, ce sont les personnages. Et ce sont les personnages qui commandent l'histoire. Si à un moment donné, quand vous écrivez une scène, votre personnage vous dit « Ben non, ça, je ne peux pas le faire », à ce moment-là, il faut changer la scène en question.
Alors, vous me tendez la perche. Les personnages, je voulais y revenir. Il y a ce Grant Augustine, donc ce type-là à la tête de cette société, qui est quelqu'un d'omnipotent, de tout-puissant, qui sait tout, qui envoie comme ça ses hommes, mais aussi ses drones, enfin, et qui est en permanence comme ça, fait observer tout ce qui se passe sur les réseaux. Où est-ce que vous êtes allé le chercher? Est-ce que vous êtes inspiré de personnages existants?
Comme vous le savez, je n'ai pas eu à aller chercher bien loin avec l'affaire Snowden en 2013, qui a éclaté et qui a montré justement que ce n'est pas du tout de la fiction. Au contraire, la réalité va bien au-delà de tout ce qu'on imaginait, puisque à l'époque où se passe le livre, c'est-à-dire l'automne 2013, c'est précisément la période où les chefs d'État européens, dont Mme Merkel, se sont aperçus que même leur téléphone portable était espionné. Donc c'est assez incroyable la puissance, puisqu'ils surveillent quasiment tout, c'est ce qui se passe dans le livre. Ils surveillent tous les échanges, toutes les communications d'ailleurs, en particulier chez des adolescents, puisqu'ils cherchent un adolescent qui sont sur cette île, et ça lui facilite finalement la tâche, parce que les adolescents d'aujourd'hui vivent à travers Internet, se mettent à nu sur Internet, se rencontrent sur Internet, et donc s'exposent. Et c'est une évolution, moi, qui ne laisse pas de m'inquiéter. Hein. C'est Edward Snowden lui-même qui a dit que les enfants qui naissent aujourd'hui ne sauront pas ce que les mots « vie privée » veulent dire.
Plus de vie privée.
Et j'en suis arrivé, moi, à une vision assez pessimiste de tout ça. Je crois qu'effectivement, au sein des dernières générations, l'évolution est d'ores et déjà irréversible, malheureusement.
Donc ça, c'est un des thèmes majeurs du livre, bien sûr. Cette dérive de la révolution numérique, et j'ai relevé cette phrase, la révolution numérique était en train de bâtir brique par brique le rêve millénaire de toutes les dictatures, des citoyens sans vie privée, qui renonçaient d'eux-mêmes à leur liberté. C'est ça le paradoxe de ce qui se passe en ce moment.
C'est vrai. Oui, on le voit en particulier au sein des dernières générations, mais aussi des gens qui finalement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont pas pas au courant. Ils savent très bien ce qui se passe. On en a suffisamment parlé. Donc, ce sont des gens qui renoncent d'une certaine manière à leur intimité, à leur vie privée, à ce que les anglo-saxons appellent privacy, plutôt que de renoncer à tous ces gadgets, quoi. Ils ont fait ce choix-là. C'est pas le mien, en tout cas.
En même temps, ça a parfois aussi des aspects positifs. Ça peut faciliter le travail de la police.
C'est ça le paradoxe, oui. Ben, on est en plein cœur du sujet avec cette loi sur le renseignement qui est sur le point d'être votée. Alors là, c'est tout à fait, le sujet.
Alors en même temps, au-delà de toutes les questions morales, politiques, philosophiques que tout cela pose, pour un romancier, un auteur de polar, c'est un ressort formidable, bien sûr.
Mais c'est ça le paradoxe quand on est auteur de romans policiers, c'est que plus les choses vont mal, plus finalement on a matériau pour travailler. C'est le malheur des uns fait le bonheur des auteurs de polar.
Si je vous dis que, je sais pas, on aurait eu un nom à consonance anglo-saxonne ou américaine au lieu du vôtre, on pourrait se dire, bah voilà, le nouveau, le dernier formidable grand thriller venu des États-Unis, parce que vraiment, je trouve qu'à la fois dans la construction de l'intrigue, mais également dans l'écriture, on y retrouve cette puissance-là, cette qualité-là.
Bah, vous me faites évidemment très plaisir, c'est un sacré compliment, ouais. C'est un sacré compliment, parce que j'ai une admiration éperdue pour un certain nombre de grands noms. On ne va pas tous les citer, mais on en a cité quelques-uns tout à l'heure. Conley, Elroy, Hammett, Stephen King dans un autre genre. Et donc voilà, moi je me considère comme un nain de plâtre face à ces géants, mais donc vous me faites rougir de plaisir en disant des choses comme ça.
Mais en même temps, vous le disiez tout à l'heure, vous avez énormément travaillé. On doit avoir conscience quand même de la qualité du travail que l'on a fourni.
On essaie toujours de s'améliorer. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. D'un livre à l'autre, j'essaie toujours de m'améliorer. Je suis un peu comme un sauteur à la perche qui essaie de placer la barre un petit peu plus haut à chaque fois. Alors, je n'ai peut-être pas encore atteint les 6 mètres, mais en tout cas, je m'entraîne.
Mais là, vous avez le sentiment, notamment pour celui-ci, enfin, vous êtes arrivé au résultat que vous poursuiviez.
J'avais le sentiment d'avoir franchi un cran supplémentaire, oui, et les retours que j'en ai me le confirment. Oui.
Alors, une putain d'histoire, bah, le titre aussi, ne passe pas inaperçu, est assez réussi. On n'hésite pas à mettre sur la couverture d'un livre
En tout cas, mon éditeur n'a pas hésité, parce que pour la première fois, les 3 titres précédents, c'est moi qui les avais proposés et validés. Et celui-là, j'en avais proposé un autre, et c'est mon éditeur qui est venu avec ce titre-là. Et effectivement, quand j'ai vu le titre, j'ai réagi et je me suis dit « Oh !» Enfin, avec le mot qui suit et qui est dans le titre. Donc, c'était quand même sacrément gonflé. J'aurais jamais eu la prétention moi-même d'intituler mon livre de cette façon-là, parce que c'est quand même assez programmatique. C'est quand même annoncer la couleur. Ça veut dire, attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est quand même... Donc, de l'assurance à l'arrogance, il n'y a qu'un pas. Moi, personnellement, je n'aurais jamais osé. Mais mon éditeur, lui, n'a pas hésité. Et finalement, je trouve que c'est une bonne idée.
Mais alors, vous me racontiez tout à l'heure que ça posait un problème, ce titre, malgré tout, dans d'autres pays francophones.
Oui, en particulier au Québec, où le titre, apparemment, je ne sais pas si c'est une question de législation ou pas, un tel mot ne pouvait pas figurer sur la couverture. Voilà, ne pouvait pas figurer sur la couverture. Donc, il a fallu trouver un autre titre que celui-là.
Et alors, qui est ? Quel titre ?
Et qui est, si ma mémoire est bonne, et il ne restera plus rien, je crois. Voilà, donc, je ne sais pas si un jour il y a une traduction américaine. Est-ce que le fuck, ça peut se faire ou pas ? J'en sais rien. Bah, on verra bien.
Au cinéma, on voit qu'ils n'ont pas peur d'utiliser le mot. Alors, évidemment, après, sur le papier, c'est autre chose. Mais... Ouais. Très bien. Bah, Bernard Minier, bravo encore et merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Putain d'histoire.